écoutez, on va parler de les chroniques de l'Amérique trumpienne ou chronique de l'une trumpie. Et oui, c'est celle de la chronique du samedi 22 mars 2025 qui sera rediffusée le mercredi 26 mars 2025 de 12h à 13h30. Alors, la chaire des mots. La chaire, C-A-I-R. La chaire des mots est le titre de la chronique de Olivier Morel d'aujourd'hui.
Attends, moi j'ai une terreur existentielle, est-ce que c'est celle-là?
Oui, oui, c'est ça.
Ah, c'est d'accord, la chaire des mots, c'est pour ça.
C'est la même chose.
D'accord, ok, ça va.
Comme chacun le sait, les bêtes sont tous sauf bêtes. Dans un test réactuel, on lit même que les bêtes les plus bêtes et opprimées par leur maître n'oublient jamais complètement l'étape de privation de liberté dont elle est accablée. Et cela a une raison, le système d'oppression, même le plus sophistiqué du monde, finit toujours par s'effondrer. Alors, il faisait allusion à un auteur du XVIe siècle, sous la servitude. Tu vois pas qui c'est? Un ami de Montaigne.
Le Boissy.
Oui. Il a commencé à connaître par ça. Donc, c'est un très grand auteur d'une grande actualité qui nous enseigne. Et un très jeune auteur, un ado philosophe, qui disait que les plus puissants véhicules pour défier la tyrannie sont encore les livres et la pensée.
Ah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres qui sont interdits dans les écoles des États, genre le Texas.
Oui, oui. Alors, ils ne mettent pas au feu, mais voilà. On a parlé la semaine dernière avec les éditeurs, le problème que ça posait problème, parce que les éditeurs n'osaient plus publier certains ouvrages de peur qu'ils ne soient pas commandés. Alors, ce n'est pas la manière de brûler les livres, mais enfin, c'est une manière un peu d'empêcher les publications.
Oui, bon, il ne faut pas lire George Orwell, hein, c'est pas bien.
À quiconque évolue actuellement dans le système d'enseignement aux États-Unis, ces choses sembleraient très familières. À l'école, on lit et on pense, mais il y a une autre chose qui défie la tyrannie, c'est le corps, et c'est le corps qui va à l'école. Ceci qui nous fut bien appelé au cours de la pandémie, où on l'a appris à qu'apprendre derrière un écran n'est pas possible. Qu'il soit humain ou non humain, le corps qui souffre sous l'oppression, même dans l'accablement de la servitude, ce corps, c'est la vie qui résiste, et cette résistance, c'est la pensée. À la fin, penser, c'est toujours penser l'injustice. Voilà, c'est ce qui est la chronique de William Morel. Et c'est vrai que ça fait un peu allusion à ce qui se passe dans les universités américaines. Mais là, il va faire peut-être un petit rappel historique sur le discours de la Boétie sur le 16e siècle et à revenir sur les États-Unis, la politique, les sanctions contre les universités qui sont un peu trop...
Allez, bon, on écoute donc Olivier Morel, notre correspondant aux États-Unis.
Galère, galère.
La pensée donne plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Voilà une phrase. Une phrase entre guillemets, bien sûr, puisque c'est une citation. Il y a des libertés qu'on a, auxquelles nous sommes tant accoutumés que nous ignorons complètement combien elles sont nécessaires. Nous évoluons, elles sont comme l'air qu'on respire ou l'eau qui entoure le poisson. Donc ces libertés, on les a, elles font partie de nous, elles sont comme le tissu de l'univers, de la société dans laquelle on existe, dans laquelle on vit. Et puis, il y a des libertés qu'on croit avoir, alors que c'est souvent plus compliqué. Il y a celles qu'on perd, il y a les libertés qu'on perd. Et parmi les libertés perdues, il y a celles qui sont perdues depuis si longtemps qu'on n'a même pas idée de leur existence. Enfin, on sait en tout cas ce que nous dit... L'homme qui dit cette phrase par laquelle j'ai commencé, je répète cette phrase. Les livres et la pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Les livres et la pensée donnent le sentiment de la dignité et la haine de la tyrannie. Il y a un lien entre les livres, la pensée, le sentiment de la dignité. Cet auteur ne dit pas exactement la dignité, mais il parle du sentiment de la dignité. C'est très important que ça se passe dans les sensations, tout ça. On a tendance à penser que les livres et la pensée, justement, sont des choses et qui ont lieu dans la tête, que c'est l'abstraction, que ce sont des idées, bref, que ça ne se passe pas dans les sensations. Or, cet auteur nous dit non, 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 non. Les livres et la pensée, ce sont des sensations. Comme un peu comme on va au cinéma. Au cinéma, n'est-ce pas, on est touché, on rit, on pleure, on tremble. On a peur. Parfois, on veut fuir même le cinéma. Et on reste. Et on reste parce qu'on veut savoir. On reste parce qu'on ressent. Le cinéma, c'est un art qui joue avec la temporalité du temps, qui suspend le temps. mais qui produit aussi des œuvres profondément sensorielles. Et c'est de la chair ici. En fait, de la chair des mots qu'il va être question dans cette chronique aujourd'hui. C'est ce sentiment de la dignité que cet auteur du passé, il est mort il y a longtemps, que cet auteur du passé nous intime d'approcher. Pour avoir la dignité, il faut d'abord avoir les sensations, les sentiments. Et alors il continue, cet auteur, en nous disant, quand on a ça, quand on a ces sensations qui nous sont données par les livres et la pensée, eh bien on a le sentiment, c'est la sensation de la dignité qui nous permet non seulement d'avoir la haine de la tyrannie, comme il le dit, mais de voir qu'il y a de la tyrannie, de ressentir la tyrannie. Bref, d'être conscient de notre propre servitude. Et c'est là que je retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces libertés perdues depuis si longtemps qu'on n'a même pas idée de leur existence. Cet auteur, en fait, c'est un jeune lycéen. Il était dans un collège, le collège de Guyenne, où peut-être était-il déjà à l'université, il étudiait le droit à l'université d'Orléans lorsqu'il a écrit ce texte. On pense qu'il avait 16 ans, peut-être 17, peut-être 18, lorsqu'il écrit les lignes que je viens de citer tout au début. Alors, qui c'est cet auteur ? Cet auteur est né il y a près de 500 ans, à Sarlat. C'est Étienne de la Boétie. Il est né en 1530 et il est mort en 1563 à côté de Bordeaux, dans les bras de son cher ami Michel de Montaigne. Alors, dans un texte évidemment extrêmement célèbre, puisque je n'ai fait ici que commenter et citer le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, qui en vérité n'était pas titré ainsi. Le titre, c'est « Le contre un ». Contre un. Ça dit bien ce que c'est-à-dire l'idée d'être contre un seul. Un seul, bien sûr, c'est le tyran. Quand Étienne de la Boétie écrit que le livre et la pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie, il pense au tyran, bien sûr. Et c'est au tyran qu'il s'attaque. Mais à un moment de ce texte, il est très intéressant d'évoquer le fait que, après avoir discouru sur la liberté, le fait d'avoir, par exemple, considéré la liberté comme un facteur qui est à la fois humain et non humain, puisque la Boétie écrit beaucoup sur les animaux. Il écrit sur l'éléphant qui est brisé sous les coups et devient un animal domestique. Il écrit sur le cheval qui, de même, est aussi brisé sous les coups pour être dressé. Et qui donc nous enseigne aussi ce que c'est que ce qu'il appelle le goût délicieux de la liberté. Le goût délicieux de la liberté. Les animaux sauvages qu'on dresse, comme l'éléphant de la Boétie, ou le cheval sauvage qui est transformé en cheval domestique, en cheval de trait de la Boétie, ont le goût délicieux de la liberté. Et la Boétie note qu'il y a même certains animaux qui préfèrent mourir ou qui vont mourir dès qu'ils sont mis en cage, ils font une attaque cardiaque. Ça, c'est très bien documenté. Certains animaux, quand ils sont capturés et mis en cage, en quelques heures, ils meurent d'une attaque cardiaque. Et ils meurent de quoi ? Eh bien, ils meurent de cette sensation qu'est la privation de la liberté. Cette sensation que, d'après Étienne de la Boétie, on retrouve dans les livres et dans la pensée. Qu'on retrouve aussi probablement dans l'écriture, puisqu'il écrit ce texte. Il écrit ce texte, et donc ce texte est aussi un acte de libération. Ceci pour rappeler que la Boétie écrit ceci vers 1546-1547, à une époque où la monarchie française essaie de se renforcer, et que si la Boétie pense aux auteurs latins et grecs, parce qu'il écrit ça pour une classe de grec et de latin, bien sûr, il pense, il écrit, toutes ses références sont puisées dans la tradition grecque et latine d'il y a 2000 ans avant lui environ, 2500 ans avant nous. Évidemment, il s'adresse à son époque, à son temps, à son présent, au renforcement de la monarchie et aussi à la violence qui va bientôt éclater dans la monarchie française avec les atroces guerres de religion qui vont être dominées par la torture, la cruauté et la guerre civile. Mais pour en revenir à ceci, revenons à nos animaux, à nos bêtes. Étienne de la Boétie considère bien sûr les animaux sauvages qui ont été capturés et qui ont ce goût délicieux de la liberté et préfèrent mourir, même physiquement meurent d'une attaque cardiaque, pour ne pas être en cage. Mais la Boétie s'intéresse à une autre catégorie de la servitude. À un moment, il se dit, mais qu'en est-il de ces animaux qui sont nés en captivité ? En d'autres termes, qu'en est-il de ces êtres humains qui naissent dans un état de tyrannie tel qu'ils n'ont rien connu d'autre ? Et on peut imaginer toutes sortes d'exemples bien connus. Qu'en est-il, par exemple, des Coréens du Nord qui sont nés en Corée du Nord et qui n'ont connu que la dictature nord-coréenne ? Il y a tant d'exemples. On pense aux Syriens qui se sont libérés d'une tyrannie qui a duré plus de 50 ans il y a quelques jours. Ils sortent de cet état d'hébétude qui est lié à l'oppression tyrannique dans laquelle ils ont vécu. Et évidemment, la Boétie se demande, mais comment font-ils pour vivre ? En d'autres termes, ils se posent la question, jusqu'à quel point ont-ils conscience de leur liberté perdue ? Alors la Boétie, bien sûr, nous dit que c'est difficile de savoir, c'est difficile de répondre à cette question. Et on sait que quelquefois, quand un dictateur meurt, les sujets de ce dictateur déplorent la mort du dictateur. Quand Joseph Staline, le dictateur soviétique, va mourir en mars 1953, des millions de personnes à travers la Russie vont pleurer sa mort. Donc il y a cette catégorie, bien sûr, d'opprimés qui sont nés dans la dictature et qui n'ont pas une complète conscience de leur oppression à cause de l'ignorance, par exemple, dans laquelle ils sont maintenus. Et la Boétie évoque ceci. Mais il y a une catégorie assez particulière dans les dictatures, qui est celle précisément de ceux, de celles, qui n'ont jamais perdu de vue, eh bien quoi, ce qu'il appelle les livres et la pensée. Les livres et la pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Et maintenant, j'appuie sur la haine de la tyrannie. Les livres et la pensée nous donnent la haine de la tyrannie et restaure notre sentiment de la dignité. Pas la dignité tout court, non, le sentiment de la dignité. C'est encore une fois dans le corps, dans les sensations, dans la chair, dans le sang, dans le cœur qui bat dans nos veines, le cœur qui nous donne d'ailleurs étymologiquement le mot courage. C'est dans ce courage que donne les livres et la pensée que réside la haine de la tyrannie, même dans les régimes les plus autoritaires et contrôlés et tyranniques que nous puissions connaître. Même dans le régime le plus oppressant, autoritaire, violent contre ses propres sujets, il y a cette étincelle de pensée qu'on trouve dans les livres. C'est ce que nous enseigne Étienne de la Boétie. Il y a un adage que les Allemands qui vivaient sous le nazisme se répétaient. « Die Gedanken sind frei. » Les pensées sont libres. Il y a toujours une liberté de penser quelque part. Il y a toujours une liberté de penser sous le joug, sous le fer du cheval qui est opprimé, qui est frappé et qui même périt sous les coups de l'oppression des maîtres. En tout cas, c'est ce que nous dit la Boétie. Et pour la Boétie, ceci est inaliénable. Il y a toujours cet espoir d'une restauration par la pensée. De quoi ? De la pensée elle-même. Et ça, ça résiste à la tyrannie. Comme disaient les militants à l'époque du mouvement Occupy aux États-Unis, à un moment, j'avais vu des militants brandir une pancarte qui disait « Ideas are bulletproof ». Les idées sont à l'épreuve des balles. Les idées sont à l'épreuve des balles. C'est ce que nous dit la Boétie aussi d'une certaine façon en son temps, lorsqu'il écrit ce texte il y a presque 500 ans. Un texte qui évidemment est un manifeste et qui comme manifeste est réveillé, ressuscité, relu régulièrement comme un de ses livres, une de ses pensées qui résiste à la tyrannie. Alors pourquoi j'introduis la chronique de cette semaine par ceci ? Je l'introduis par ces mots d'Étienne de la Boétie parce qu'il en est de ce qu'un intellectuel de l'extrême droite, conseiller du président Trump, appelle « the existential terror », la terreur existentielle. La terreur existentielle que cet intellectuel a théorisée avant la prise de pouvoir de Donald Trump et qu'il utilise aujourd'hui et qui est mise en œuvre aujourd'hui pour exercer une terreur existentielle, une menace existentielle contre quoi ? Contre les universités. Ma chronique de cette semaine porte sur la violente attaque, non pas contre le droit à laquelle j'avais consacré ma précédente chronique, mais une très violente attaque contre les universités qui a lieu aujourd'hui. Comme je l'ai dit, plusieurs universités ont perdu des centaines de millions de dollars d'aide fédérale pour des programmes scientifiques au cours des dernières semaines. Je dis comme je l'ai dit puisque je l'avais aussi évoqué la semaine dernière et l'administration Trump nous a annoncé, ce n'est que le début. Il s'agit donc ici d'une attaque contre la pensée, contre l'enseignement, contre ce qui est aussi connu dans l'université, dans la longue histoire des universités. Je rappelais tout à l'heure que Étienne de la Boétie est étudiant, qu'il est peut-être étudiant au lycée Collège de Guyenne à côté de Bordeaux, ou bien à l'université d'Orléans lorsqu'il écrit ce texte, pour rappeler que les premières universités voient le jour en Europe, vers le milieu peut-être du XIe siècle, à Bologne en Italie, suivie de près par la Sorbonne en France au XIIe siècle. Et que l'idée de ces universités, très rapidement, d'universités servant l'institution ecclésiale, l'institution catholique, l'Église, vont très rapidement s'autonomiser parce que précisément il y a cette tentation et cette dynamique interne au savoir et à la pensée de résister à l'institution et à la loi. Parce que qu'est-ce que c'est la pensée à la fin ? La pensée, c'est précisément ce qui consiste à faire ce que le cheval ou l'éléphant de la Boétie qui est opprimé par tant d'oppression et de tyrannie que, à la fin, il finit toujours par se révolter. C'est ça l'idée de la Boétie. C'est que même l'animal, humain ou non humain, le plus opprimé sur Terre, eh bien parce qu'il est opprimé, il est maltraité. Et donc, quand il y a mauvais traitement, il y a injustice. Quand il y a injustice, il y a pensée. On pense, quand on pense toujours l'injustice. On rêve, quand on rêve toujours de s'échapper. De s'échapper de quoi ? De s'échapper de la prison. Tout rêve est un rêve de prisonnier qui s'évade. Eh bien, c'est ça que l'administration Trump essaye d'éteindre aujourd'hui. Je renvoie à la fondation des universités et à leur autonomisation très rapide. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme le quartier latin, ce quartier de Paris où on parle latin, eh bien c'est justement les étudiants. Les étudiants qui très rapidement, vers le XIIIe siècle ou XIVe siècle, vont obtenir une autonomie par rapport au pouvoir de la ville de Paris et même par rapport au pouvoir royal. Et donc très vite, le pouvoir royal en France va craindre les étudiants. Et c'est pour ça que la tradition de révolte des étudiants du quartier latin et de leurs professeurs, qui va du Moyen-Âge jusqu'à mai 68 et bien au-delà, elle est non pas un effet secondaire de la production du savoir, mais la nature même de ce qu'est la production du savoir qui consiste à démasquer l'oppression qui nous empêche d'avoir accès au savoir. Donc pour comprendre ce qui se passe dans l'attaque actuelle contre les universités, il faut refaire un peu d'histoire. Parce qu'en vérité, que sont les universités aux États-Unis ? Les universités aux États-Unis sont probablement l'une des institutions de recherche et d'enseignement les plus puissantes sur Terre actuellement. La plupart des prix Nobel, la majorité des prix Nobel attribués dans le monde depuis la fondation du prix Nobel il y a plus de 100 ans, 120 ans environ, ce sont des chercheurs et des chercheuses américains ou d'origine étrangère mais exerçant et travaillant aux États-Unis qui les ont obtenus. Et tout ceci a une histoire. L'histoire des universités aux États-Unis, bien sûr, remonte au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. C'est la fondation des premières universités de la côte Est, apportée par les Anglais avec toute la tradition anglaise qu'elles charrient. Mais leur essor va véritablement commencer dans les années qui précèdent immédiatement la guerre de sécession, c'est-à-dire l'obtention de droits et de libertés qui n'avaient pas de précédent dans l'histoire de la démocratie américaine qui remonte à la fin du XVIIIe siècle. Et là-dessus, à partir du début des années 1860, il y a des lois qui sont adoptées à l'échelle de l'État fédéral qui visent à considérablement développer les universités et le savoir. Et le but, c'est pas forcément la liberté dont je parlais d'ailleurs, mais c'est de suivre le mouvement de la révolution industrielle. Donc très vite, au XIXe siècle, vers la fin du XIXe siècle, dans la compétition avec l'Europe, les États-Unis vont comprendre qu'en investissant sur les universités, on investit dans la science et dans le progrès technologique qui est essentiel dans la compétition internationale économique qui a lieu dans le contexte de la révolution industrielle. Ça, c'est la première phase. Et puis, il y a une deuxième phase dans l'histoire des États-Unis. Dans l'histoire des universités aux États-Unis, c'est la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde se souvient, ceux qui ont vu le film Oppenheimer, par exemple, se souviennent que ce film parle, en vérité, de scientifiques, et souvent ce sont des scientifiques européens qui ont trouvé refuge aux États-Unis à cause du nazisme, des scientifiques qui vont développer la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan. On a tous en tête les images de Albert Einstein, qui, évidemment, avait élaboré sa théorie de la relativité restreinte dans l'université à Berlin, en Allemagne, et va fuir aux États-Unis, va fuir les persécutions, bien sûr, aux États-Unis. Et donc, les Américains, l'université américaine, va bénéficier de cette gigantesque manne de matière grise et développer leur université. Alors, pas seulement, bien sûr, sur le versant scientifique et technologique, mais aussi la compréhension que investir sur la science et investir sur la technologie, c'est investir dans toutes les applications militaires que ce savoir scientifique et technologique peut apporter. On sait que c'est dans l'après-Deuxième Guerre mondiale que des administrateurs et des ardents défenseurs et des artisans de la recherche universitaire à but technologique pour favoriser la guerre des États-Unis contre le nazisme notamment. On sait que c'est dans ce contexte qu'une institution comme le National Science Foundation va être créée en 1950 pour poursuivre l'effort de recherche et l'effort de création de nouvelles technologies qui ont déjà fait la puissance militaire des États-Unis et une puissance économique sans précédent après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis une troisième phase, si on veut accélérer un peu ce mouvement, c'est la ferveur scientifique qui va avoir lieu. pendant la guerre froide, dans la compétition avec les soviétiques, dans la conquête de l'espace. Cette véritable ferveur scientifique et technologique qui, dans les années 60, va aussi aboutir dans un but de lutte culturelle contre l'influence de l'Union soviétique, un de ses bras armés, ça va être aussi le développement des humanities. Donc l'enseignement des langues, l'enseignement de la littérature, l'enseignement de la sociologie et de l'anthropologie pour comprendre comment fonctionnent les sociétés humaines et éventuellement, si on est en conflit avec ces sociétés, être capable, en formant des spécialistes de l'intelligence pour la CIA, pour le FBI, etc., pour les services secrets américains, être capable de comprendre la langue de l'ennemi. Bref, tout ça va continuer jusqu'aux années 60. Et puis, évidemment, comme les universités sont des lieux de savoir, comme je l'ai dit pour Étienne de la Boétie, bien à un moment, ces universités vont aussi utiliser leur savoir comme un contre-pouvoir. On sait par exemple que le gouverneur de Californie, Ronald Reagan, dans les années 60, avait lancé des attaques extrêmement violentes contre le système universitaire des universités de Californie, les fameuses UC Berkeley ou UCLA, parce que ces universités embauchaient des penseurs, des intellectuels qui étaient extrêmement marqués à gauche, mais qui étaient aussi membres de la mouvance activiste, féministe, anti-guerre du Vietnam, et aussi marqués par le mouvement des droits civiques tel qu'il prenait forme autour du Black Panther Party. Certaines personnes ont entendu parler de Angela Davis. Toute la campagne menée par Ronald Reagan contre Angela Davis se produit dans ce contexte. Nixon, le président Nixon, va d'ailleurs, à la fin des années 60, tenter de couper les vivres aux universités américaines qui s'illustrent dans la lutte contre la guerre du Vietnam. Mais Nixon va reculer d'un pas à un moment en se disant « on veut s'attaquer aux universités parce qu'elles soutiennent le mouvement anti-guerre, mais on ne veut pas détruire les universités ». Et ça, c'est un moment très important. À un moment, c'est une phrase célèbre de Nixon, il va dire « cutting off our nose to spite our face ». En gros, l'idée, c'est on va quand même pas se couper le nez pour guérir le rhume. On va pas se tirer une balle dans le pied, en quelque sorte. Et donc, Nixon va s'en prendre aux administrateurs. Il va pas casser les universités comme telles. Il va s'en prendre aux administrateurs. C'est-à-dire qu'il va faire virer une centaine d'universitaires qui, notamment, n'avaient pas encore obtenu leur titularisation. Pourquoi je parle de tout ça aujourd'hui et pourquoi maintenant c'est important? Parce que dans l'attaque qui a lieu actuellement contre les universités, il n'y a pas une attaque comme celle que Nixon voulait engager. C'est-à-dire que contrairement à l'idée de Nixon qu'il faut quand même guérir le rhume, mais on ne va pas se couper le nez pour ça, eh bien actuellement on est en train de couper le nez. C'est-à-dire que l'idée dite de « existential terror », c'est-à-dire l'idée de créer une terreur existentielle contre l'université, contre les universitaires à la tête de l'administration Trump aujourd'hui, c'est le but non pas seulement de faire fi ou de se débarrasser de la gauche universitaire, telle que Trump et ses alliés l'ont dans leur viseur. Non, ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, c'est d'éteindre les universités. C'est ça le but aujourd'hui. Alors, évidemment, l'université, comme je le disais, avec la fondation des premières universités vers 1088 à Bologne ou 1150 à Paris, ces universités en ont vu d'autres. Et des attaques contre l'institution universitaire elle-même, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup et il y en aura d'autres. En effet, les livres et la pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Les livres vont rester, la pensée va rester. C'est ce que l'histoire nous enseigne et c'est ce qu'Étienne de la Boétie nous enseigne en 1546, il y a longtemps et toujours aujourd'hui. To the land of California, to my sweet home, to
gonna keep on monkeying around here, friend, boy, you gonna get you. Business all in a trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm 6 2 is 8, 8 2 is 10. Friend, watch it trick you one time. She sure gonna do it again, but I'm crying, hey, baby, don't you want to go? To the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm going to California.